Bonjour, c'est Isabelle Labéry. Nous sommes le 25 avril 2024, il y a 792 jours que la Russie a envahi l'Ukraine.
Slava Ukraine.
Slava Ukraine. Героям слава.
Guerre en Ukraine, le podcast de la rédaction internationale de Radio France.
On this vote, the yeas are 311 and the nays are 112. The bill is passed.
Le 20 avril, après 6 mois de tractations interminables, l'Amérique bascule du bon côté de l'histoire. La Chambre des représentants, dominée par les Républicains, adopte finalement par 311 voix contre 112 un plan d'aide à l'Ukraine de 61 milliards de dollars. Le texte est ensuite voté par le Sénat, une simple formalité. La Chambre haute est dominée par les démocrates. Pour leur représentant, Chuck Schumer, l'Amérique envoie un message au monde entier. On ne vous tournera pas le dos. Une partie de l'enveloppe reviendra aux usines d'armement américaines pour reconstituer les stocks de l'armée. Le reste sera consacré à l'achat direct de matériel par l'Ukraine. Tout va aller très vite, dit le président Joe Biden en promulguant la loi le 24 avril.
Je vais faire en sorte que les livraisons reprennent immédiatement. Dans les heures qui viennent, nous allons commencer à envoyer de l'équipement à l'Ukraine. Des munitions pour leur défense antiaérienne et leur artillerie, des roquettes et des blindés. L'Amérique s'oppose aux dictatures. On ne se prosterne devant personne. Et certainement pas devant Vladimir Poutine.
Salut Isa.
Agathe Mahué est allée demander aux Ukrainiens s'ils étaient soulagés.
Très concrètement, les gens nous le disent à quel point c'est une question de survie, parce que sans cette assistance militaire, ces armes, ces munitions qui vont être envoyées, l'Ukraine pourrait vraiment disparaître. Donc cette aide est vraiment bienvenue, même si certains regrettent qu'on ait perdu du temps, qu'on ait perdu des vies inutilement ces 6 derniers mois. C'est un peu ce que nous a dit Vera, qu'on a rencontré à Borodianka, dans la banlieue de Kiev.
Il aurait fallu faire ça plus tôt. Il n'est pas trop tard, bien sûr, mais on aurait pu faire en sorte que la guerre finisse plus rapidement.
Son mari, Serhiy, nous montrait en même temps sur son portable la photo de ses deux fils, trentenaires, sur le front, c'est son fond d'écran. Pour les soldats qu'on a rencontrés à Kiev aussi, cette aide, c'est vraiment du concret.
Quand il y avait pénurie de munitions ces derniers mois, on a bien vu qu'on reculait et on a perdu du territoire. Donc avec plus d'armes, ça peut nous permettre non seulement de nous défendre, mais aussi de retenter de petites avancées.
Alors tu vois, personne ne s'emballe complètement. Les Ukrainiens comprennent bien que ces dollars ne riment pas forcément avec la victoire tant attendue, en tout cas pas dans l'immédiat. On est réaliste ici, ça ne va pas tout changer d'un coup de baguette magique, mais tu l'entends, c'est bon à prendre quand même. Et si l'aide est bien gérée par les autorités ukrainiennes, il est possible quand même que ça relance un peu les choses et peut-être un peu plus à l'avantage de l'Ukraine.
Ce que confirme Léo Peria-Peignet, chercheur à l'Institut français des relations internationales. Il était l'invité ce lundi de Fabienne Synthèse dans son émission Un jour dans le monde sur France Inter.
Ah oui, non, je pense que la situation ukrainienne avant le vote du package était peut-être la plus critique depuis le début de la guerre. Ça, c'est même pas une question. Ils n'avaient plus les moyens d'entretenir un rapport de feu correct, ils n'avaient plus les moyens de protéger leur ville contre les attaques aériennes. Donc on était à un moment où, si l'Ukraine continuait sur cette pente sans aide, sans réaction des Européens, il se serait passé des choses avant l'été. En l'état, donner aux Ukrainiens les moyens de se défendre, donner aux Ukrainiens des armes de qualité qui leur permettent de frapper plus loin, plus vite, avec le renseignement américain, c'est permettre aux Ukrainiens d'économiser des hommes. Mmh. Et c'est très clairement ce qu'eux-mêmes disent. Ils disent « donnez-nous des obus, les obus européens sauvent des vies ». Espérer reprendre l'initiative, ça me semble encore d'une autre temporalité. On est dans une logique d'attrition. À un moment, soit l'Ukraine, soit les Russes n'auront plus le potentiel pour maintenir une guerre soutenable. Et à partir de là, l'un ou l'autre sera en position de force pour négocier. C'est à peu près comme ça que ça va fonctionner. Quoi qu'en disent certains politiques en France, c'est pas en allant voir les uns et les autres pour essayer de faire une consultation que ça marchera. Mmh. Donc à partir de là, 60 milliards. Et après, on verra, une éventuelle reprise de l'approvisionnement. Ça veut dire que l'Ukraine a de nouveau les cartes en main pour contraindre la Russie à négocier. Ça sera pas tout de suite, parce que la Russie a encore du potentiel. Je pense que les Russes sont aussi assez surpris que le package soit passé à la Chambre. Donc là, je pense que les Russes, qui de leur côté, ont aussi souffert. Hein. L'atout principal de l'armée russe, c'était les stocks soviétiques. Ces stocks-là, ils sont de plus en plus limités parce qu'ils sont de plus en plus vidés, si vous voulez. Mm-hmm. Les véhicules qui restent dans les parcs sont des véhicules qui sont inexploitables. Donc, cette logique-là, elle va arriver au bout à un moment.
C'est dans ce contexte que l'on a appris hier que Washington, à la demande express de Joe Biden, avait déjà envoyé des missiles longue portée à son allié ukrainien, 100 ATACMS, qui faisait partie d'une tranche d'aide précédente, mais dont la livraison avait jusqu'ici été gardée secrète pour raison de sécurité. Ils sont arrivés sur le terrain le mois dernier. Leur portée de 300 km permet aux forces armées ukrainiennes d'atteindre le pont de Kerch et la Crimée. Le Kremlin minimise cette annonce et assure que cela ne va pas changer l'issue de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Quand on est en France, c'est vrai qu'on a parfois du mal à imaginer comment la guerre impacte le quotidien des civils ukrainiens. C'est ce qu'on essaie quand même de vous faire comprendre à travers ce podcast. En début de semaine dernière, par exemple, j'étais à Lviv, tout à l'ouest, près de la frontière polonaise. Il faisait très beau, très chaud. Les cafés et les rues piétonnes du centre-ville étaient plutôt animées, les marchands de souvenirs étaient ouverts, les femmes impeccablement coiffées et maquillées. Et sans les soldats amputés qu'on voit circuler avec des béquilles, sans les alertes, mais très rares, des téléphones portables qui signalent des attaques de missiles ailleurs dans le pays, eh bien on aurait vraiment pu se croire dans n'importe quelle ville européenne par une belle journée de printemps. Et vous allez voir que même plus près du front, dans l'Est, à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, où la vie est pourtant, depuis des mois maintenant, rythmée par les bombardements et les coupures d'électricité, eh bien, la jeunesse fait preuve d'une résilience étonnante. Je vous propose de plonger dans cette ambiance très particulière avec Agathe Mahué, Jérémy Tuil et Yachar Fazilov.
Un grand parc à la nuit tombée, des enfants qui chahutent et qui se courent après. Mais ces petits Ukrainiens-là jouent dans l'obscurité. La seule lumière vient de la cabane à côté, qui vend du café à emporter, branché sur générateur. Car on a ressorti ici les groupes électrogènes de l'hiver 2022. Taras a 24 ans,
barman.
Il est donc barman. Son générateur, lui, l'a rebranché dès le retour des frappes, il y a un mois.
À cause de ces bombardements, les nouveaux bars de Kharkiv s'ouvrent directement dans des sous-sols. Au moins, comme ça, on sait que ce sera sécurisé.
Et il y a du monde dans ces établissements souterrain et jusque sur les trottoirs. Ce soir, Taras profite avec ses amis Tania et Marina.
Notre vie est ici. Partir, ce serait montrer à la Russie qu'on a peur d'elle. Alors on essaie de se détendre, même si c'est dans l'obscurité. Tous les jours, on cherche la lumière. On essaie de mettre un peu de joie dans nos vies.
What is your name?
My name is Ilya.
Ilya, je l'ai rencontré dans une boutique de vêtements de seconde main vendus au poids. 350 hryvnias le kilo, soit un peu plus de 8 euros. Et comme tout le monde, quand la dernière alerte aux drones ou aux missiles a retenti sur les téléphones, Ilya a fait ce que chacun fait ici. Il l'a coupé et a poursuivi ses activités.
Franchement, je ne connais personne qui réagit encore aux alertes, parce que c'est en permanence. Et puis le plus souvent, on entend une explosion, et 10 ou 15 secondes après, l'alerte se déclenche. Donc c'est assez inutile.
Il faut dire que la Russie est si proche que certains projectiles mettent moins d'une minute à atteindre Kharkiv. Ilya raconte qu'il y a peu de temps, un missile est tombé à moins d'un kilomètre de lui. Un vieux monsieur à ses côtés était en train de fumer.
Il y a eu cette explosion massive. C'était très fort. Mais lui a juste tourné la tête, comme s'il ne s'était rien passé. Vous voyez, pour certains, c'est devenu la vie normale.
Lui enseigne l'anglais en ligne. Et avec les coupures d'électricité à Kharkiv, c'est très compliqué.
Cette semaine, je n'ai quasiment pas pu travailler. Le réseau mobile est très mauvais. La semaine dernière, on a été privé de courant pendant 16 heures.
16
heures par jour.
Kharkiv, ville étudiante et très active culturellement. Vlada et Glib, même pas 20 ans, sortent d'une exposition de tableaux. Elle est peintre, lui cuisinier. Il porte une chemise bohème, une longue queue de cheval, et malgré les missiles, ne voit aucune raison de s'en aller.
Si nous on part, qui restera ici? Nous les jeunes, nous sommes l'avenir de Kharkiv. Nous devons faire en sorte qu'elle se développe et fonctionne. Je suis né ici. J'aime cette ville.
Les skateurs passent et repassent sur la grande place. L'énergie de Kharkiv saute aux yeux et déboussole complètement Tolik. Dans son uniforme militaire, sac sur le dos, le soldat en permission a l'air hagard.
Je sais pas, c'est comme un autre monde. C'est dur de passer de l'un à l'autre.
Tolik était au combat dans la zone d'Avdivka, la ligne de front la plus disputée, à 200 km de là.
C'est sympa de rester là debout, écouter la musique, observer les gens. Ça permet de se souvenir de ce qu'est la vie paisible et normale.
Car là-bas, dit Tolik, sur le front, c'est une autre musique. Le fait que les Russes s'en prennent principalement aux infrastructures énergétiques et aussi aux immeubles d'habitation, voilà justement ce qui fait sortir de ses gonds le chef du Conseil de défense et de sécurité nationale. C'est un organe qui dépend directement du président Volodymyr Zelensky et qui a un rôle de consultation, de coordination sur toutes les questions stratégiques. Oleksandr Litvinenko est son secrétaire général. Il nous a reçus mardi dernier dans son bureau ultra sécurisé à Kiev.
Les Russes ne frappent pas les sites militaires. Ils essaient juste de rendre plus difficile la vie des gens ordinaires. Malgré toutes leurs tentatives, le moral de la société résiste. Les Ukrainiens comprennent très bien que l'on se bat pour notre avenir et celui de nos enfants. Moi, j'ai un fils et une fille, ils ont 13 ans. C'est pour eux que je travaille, pour leur donner la possibilité de vivre plus tard dans ce pays. C'est ça la plus grande différence entre nous et les Russes. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour votre aide militaire. On sait très bien que sans vous, notre situation serait bien pire. Mais nous avons encore besoin d'armes pour défendre nos femmes et nos enfants. On ne se bat pas pour des problèmes géopolitiques ou pour l'OTAN. On se bat pour les gens ordinaires. Avant le massacre de Boutcha en 2022, certains se disaient que la situation pouvait changer, qu'on trouverait peut-être un moyen de discuter avec les Russes. Mais Boutcha nous a démontré avec force que les pires choses que nous connaissons par les livres et les films sont ici. Notre tâche est d'arrêter cette folie, et nous ne pouvons pas le faire sans votre aide. L'Ukraine est très modérée dans ses demandes. Nous voulons juste la paix. Pas pour un ou deux ans, mais pour une ou deux générations. Il y a 70 ou 80 ans, mon arrière-grand-père et le vôtre se sont battus exactement pour la même chose.
Coucou Isa. Ça va, je suis très heureux que tu sois sain et sauf en rentrant en France. Et donc, c'était bien de se retrouver.
Pour terminer cet épisode, j'ai demandé une note vocale à Vitaly Kartamichev, qui travaille pour une organisation humanitaire américaine en Ukraine et qui intervient régulièrement dans ce podcast. Jeudi dernier, le 18 avril, on s'est vu à Kiev et Vitaly m'a fait découvrir la cerise ivre.
C'est une sorte de chaîne de bars où... des bistrots, si tu veux, où on vend une liqueur sucrée chaude à la cerise. Au Portugal, tu m'avais dit, ça s'appelle ginja.
Et pendant qu'on sirotait notre liqueur à la cerise, en échangeant des nouvelles sur la France et l'Ukraine,
Un jeune homme d'une trentaine d'années, au visage souriant, est entré dans le bar, un étui à violon à la main. Il venait boire un verre, pas pour jouer, mais les serveuses ont tout de suite demandé au client de se taire et de l'écouter.
Et ce violon a apporté une atmosphère tout à fait magique. Et ce qui compte, c'est qu'il ne voulait pas d'argent, il voulait juste partager sa musique.
Il
est musicien, mais il préfère d'être acteur.
It's like soundtrack from Godfather, you know, this film, Godfather.
Aujourd'hui, j'ai participé aux travaux du groupe de travail de l'Organisation mondiale de la santé sur les besoins de la population dans les zones situées à proximité de la ligne de front. Et le problème est que de nombreux médecins ont quitté ces territoires, tandis que d'autres qui restent là-bas touchent des bas salaires. Le personnel médical junior reçoit moins de 100 euros par mois, figure-toi. Et un médecin diplômé touche au mieux 300 euros par mois. Alors, il y a des endroits dans les petites villes situées le long de la ligne de front, il ne reste à certains endroits qu'un seul médecin, voire plus du tout. Et c'est pourquoi le travail d'organisation comme celle pour laquelle je travaille actuellement est très important, car nous aidons à faire venir des médecins d'autres pays pour aider la population en Ukraine. Bonne soirée, à plus.
C'est donc sur la musique du parrain que vous aurez reconnu, bien sûr, jouée par un jeune violoniste dans un bar de Kiev, un jour de printemps pluvieux que se termine cet épisode. Merci à Agathe Mahué, avec Jérémy Thuil et Yachar Fazilov, Léo Peria-Peigné, Alexander Litvinenko, Vitaly Kertamichev, ainsi qu'Anastasia Chapochkina et Darina Marina Patiouk, membres du cercle de réflexion Eastern Circles, qui m'ont permis de me rendre en Ukraine la semaine dernière. Mise en monde assuré par Élise Le, production Isabelle Labéry. Je vous dis à jeudi.
C'était Guerre en Ukraine, le podcast de la rédaction internationale de Radio France.